Chapitre 62. Deux mois plus tard. Ils vont l'enterrer à Croydon. Où pourraient-ils le faire sinon? Pas à Riding House Bay, là où sa courte vie innocente s'est terminée avec tant de violence. Et pas à Bud non plus, là où vivaient ses grands-parents, où sa mère a grandi. Maintenant qu'on a découvert que son meurtrier y a vécu pendant une partie des années 90, y a violé deux femmes et en a harcelé une autre jusqu'à ce qu'elle fasse une tentative de suicide. Cela doit se faire à Croydon. Et au moins, c'est une belle journée d'été. Alice a l'impression de revenir à la maison en arrivant à Londres. Elle sent qu'elle laisse derrière elle son côté maman bord de mer et s'imagine aller boire des verres dans des bars pour hipsters, emmener Romaine dans des terrains de jeu aux murs recouverts de graffitis et faire du shopping dans des boutiques tenues par des gens aux accents étrangers. Elle adore Riding House Bay, mais Londres lui manque. Frank l'attend à la gare d'East Croydon. Il a l'air en forme. Il a gardé la barbe qu'il avait laissée pousser quand ils étaient chez eux, mais c'est maintenant une masse touffue de poils cuivre et marron. Ses cheveux sont courts et il porte un beau costume noir, une chemise à carreaux sombres et des chaussures de ville noire. Il ressemble tout à fait à un prof de maths branché, sauf qu'il n'est plus prof de maths. Son établissement lui a accordé un long congé maladie lorsqu'il est rentré, mais après 6 semaines dans le centre médico-psychologique, il a décidé de démissionner. Depuis, il ne travaille plus. Ce qui est une mauvaise nouvelle, parce qu'il ne pourra pas les emmener au Ritz, mais aussi une bonne nouvelle, parce que son champ de possibilités s'est considérablement élargi. « Bonjour », lui dit-il timidement en déposant un léger baiser sur sa joue et en la serrant doucement dans ses bras. « T'es magnifique ». Elle touche ses cheveux, embarrassée. C'est vrai qu'elle a fait un gros effort aujourd'hui. Ses mèches douteuses ont disparu après beaucoup de travail et elle porte une culotte moulante inconfortable qui lui tient le ventre. Elle s'est maquillée avec l'aide de Jasmine, qui possède un petit niveau dans le domaine en tant que membre de la génération des tutos YouTube. Et elle a mis une robe. « Merci », répond-elle en rougissant. Il l'emmène jusqu'à sa voiture. Une vieille Vauxhall à l'intérieur sale. Il s'en excuse. Et elle lui dit de ne pas s'en faire. Après tout, il a vu sa maison. Il sait qu'elle ne s'émeut pas pour un peu de poussière. Ils sont légèrement gênés. Ils ne se sont pas vus depuis assez longtemps, et Alice se demande si elle devrait lui sauter dessus ou faire comme si de rien n'était. « Comment tu te sens ?»«
Mal. » »«
C'est compréhensible. Ça fait 22 ans que tu attends ça. »
« Exactement. »
répond-il, les yeux fixés sur le rétroviseur pendant qu'il double une voiture qui se gare. « Et ta mère ?»«
Elle est folle, complètement zinzin. Je comprends mieux pourquoi je suis ainsi en la voyant. J'espère que tout ça va l'aider à s'apaiser. Enterrer son bébé, peut-être que ce sera bénéfique, »
explique-t-il en changeant de voix.
« Oui, ça a dû être... »
Elle s'arrête, submergée par l'idée de perdre ses propres enfants. Je ne peux pas m'imaginer ce qu'elle a vécu. Elle a peur de rencontrer la mère de Frank. En fait, elle a peur de tout. Les tantes, les oncles, le chagrin, la douleur et le cercueil avec les os adolescents. « J'ai fait quelque chose pour elle », annonce-t-elle d'une voix hésitante en touchant le sac plastique posé à ses pieds. « J'espère que... je ne sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais elle l'aimera peut-être. » « Je souhaiterais le lui donner, mais d'abord, je voudrais te le montrer. »«
Bien sûr, » répond-il en jetant un regard au casque. « Tu as fait un tableau ?»«
Oui, comment t'as deviné ?» Il lui sourit.
« Je sais que, si tu lui offres quelque chose, ça doit être très personnel. Tes œuvres viennent du cœur. Et pour être honnête, je vois un bout du cadre. »
Elle lui donne un petit coup de coude et il rit.
« En fait, j'ai pas pris de petit déjeuner et je ne suis pas sûre de pouvoir manger avant quelque temps. Ça ne te dérange pas si on s'arrête pour avaler quelque chose ? On est en avance. »
Elle hoche la tête, heureuse de pouvoir retarder le moment de rencontrer la famille de Frank. Il se gare sur le côté de la route, devant un café vieillot à la devanture orange.
« Prends ton cadeau, que je te donne mon avis. »
Ils commandèrent des sandwichs et des patates farcies, du coca et du thé. Il parle du procès de Mark Tate, de la possibilité qu'il soit acquitté vu le peu de preuves disponibles. Il parle des femmes qui ont déposé plainte contre lui depuis que l'affaire a éclaté, de cette Amanda à qui il était marié.
Ils discutent du reportage exclusif étonnamment pertinent qu'a écrit Leslie Wade dans la Gazette. Il a été repris dans les journaux nationaux. Et le Sunday Times va en faire un long dossier de 10 pages une fois le procès terminé. Il parle de Kitty Tate, qui a également été arrêtée pour complicité, mais qui a été remise en liberté en attendant le jugement. Quelques jours après l'exhumation des restes de Kirsty, elle a vendu les 2 maisons à un promoteur immobilier à vil prix et vit désormais dans un appartement en location à Ripon. Il parle des enfants d'Alice et de ses chiens. Des enseignants de l'école de Romaine qui traitent maintenant Alice comme une célébrité après avoir lu son nom dans tous les journaux de la région. Ils discutent des semaines que Frank a passées dans le centre médico-psychologique, de ses projets pour l'avenir. Ils parlent comme de vieux amis qui auraient vécu ensemble des aventures extraordinaires qu'ils ne pourraient évoquer qu'entre eux. Ils se regardent avec une bienveillance totale. Elle voudrait lui prendre la main, mais elle préfère attendre que cela vienne de lui. C'est lui dont la vie a été brisée en 1000 morceaux, qu'il essaie maintenant de recoller. C'est lui qui enterre aujourd'hui sa petite sœur. C'est lui qui doit décider. « Tu te sens mieux ?» lui demande-t-elle. Il sourit. « Je crois. Je me sens très différent de Gray. Mais pas tout à fait Frank non plus. Je crois que je suis devenu Graham. C'est-à-dire l'homme que j'aurais toujours dû être. Toujours. Graham, insiste-t-il en ouvrant grand les yeux pour l'aider à comprendre ce qu'il veut dire. Elle rit. Graham, un homme solide, ambitieux, aimant, avec une famille, avec un chien.
Tu as un chien ?
Non, non. C'est une image. Graham a des amis et des centres d'intérêt. Il sait dessiner et il n'est pas mauvais au foot. C'est un type bien. Pas très palpitant, mais bien. Il ferait un bon mari.
Alice rit un peu plus fort. Je crois que j'aime bien ce Graham. Mais est-ce que je peux continuer à l'appeler Frank ?
Toi, tu peux l'appeler comme tu veux, dit-il en passant le doigt sur le rebord de sa tasse.
Est-ce que tu viendras nous voir ?
Lui demande-t-elle avec excitation, regrettant d'avoir posé cette question dès que les mots sortent de sa bouche. Mais elle n'a pas à s'en faire. Il acquiesce et lui sourit. « Je veux venir, vraiment. J'en rêve. Quand est-ce que ce serait possible ?»
Le soulagement envahit le corps d'Alice.
« Quand tu veux. Maintenant ?» Franck rit. « Maintenant, je crois que j'ai 1 ou 2 bricoles à faire, non ?»«
Oui, oui, bien sûr. Excuse-moi. Je suis vraiment une vieille peau désespérée, on dirait. »
« Ni vieille, ni peau. Et le côté désespéré, c'est pas un problème pour moi. Pas du tout. »
Il sourit et lui prend enfin la main.
« Alors, tu me montres ?»
Elle sent la nervosité monter en elle en ouvrant le sac. Elle a passé des nuits entières sur ce projet pour que tout soit absolument parfait, pour ne pas tomber dans le sentimentalisme.
« Voilà !»
dit-elle en le faisant glisser sur la table.
« Qu'est-ce que tu en penses ?»
C'est un paon qui fait la roue et qui penche la tête, une patte en l'air.
Il danse.
Remarque Frank doucement. Oui, je suis contente que tu aies compris. J'avais peur que ça ne rende pas bien. Jasmine trouvait qu'il avait l'air d'essayer de voler, qu'il faisait pitié.
Non, répond Frank en touchant le verre du cadre du bout des doigts. Il danse, c'est évident.
Et regarde les cartes. Ça, c'est Croydon. Et pour ça, poursuit-elle en lui montrant un autre morceau, j'ai pris un risque. Je me suis demandé où elle aurait pu vivre si ce drame n'était pas arrivé. Ce que Kirsty Ross aurait fait de sa vie. J'ai pensé que, peut-être, elle serait allée à l'université dans le Sussex. Et en Crète pour ses premières vacances entre amis. Ça, c'est la Thaïlande. Elle y aurait fait un road trip. Puis Clapham, où elle aurait habité en colocation pendant quelque temps. Et elle se serait mariée. Elle aurait acheté une maison pas trop loin de chez ses parents, ici, à Norbury. C'est pas très glamour, je sais, mais d'après ce que tu m'as dit d'elle, je crois que c'était quelqu'un de simple. Alors c'est ce que j'ai imaginé.
Elle hausse les épaules, déstabilisée par le silence de Frank.
Voilà l'idée que j'ai eue. C'est un peu fou, je sais, mais je voulais recréer la vie qu'elle n'a pas pu vivre, pour qu'elle existe encore un peu.
Frank la fixe, puis baisse les yeux vers le cadre. Il inspire profondément, et Alice voit qu'il fait tout pour ne pas pleurer. C'est parfait. Vraiment, c'est incroyable. Et si beau. Et juste.
Tu penses que ta mère l'aimera ?
J'en suis sûre. Elle va l'adorer, dit-il en lui prenant les mains. Et elle va t'adorer.
Il s'arrête et secoue la tête.
Il faut qu'on y aille.
Il sort un billet de 20 livres de sa poche et le pose sur la table. Il quitte le café, main dans la main. Le soleil brille et réchauffe doucement les rues grises de Croydon. À un mile de là, le cercueil de Kirsty est sorti d'une chambre funéraire pour être installé dans un corbillard blanc, sur lequel son nom est écrit avec des roses. À un autre mile, en direction opposée, la mère de Kirsty ajoute une rose à la boutonnière de sa veste, pendant que ses grands-parents disposent sur une table du fromage, des crackers, des bouteilles de vin, des cacahuètes et attendent que ce soit l'heure. Des journalistes et des photographes vêtus de noir s'installent à une distance respectable. L'enterrement de cette jeune fille qui a été cachée sous un chêne à 250 miles de chez elle pendant plus de 20 ans, de cette jeune fille qui a été tuée par l'homme le plus haï de Grande-Bretagne, de cette jeune fille qui a été retrouvée par un frère ayant oublié jusqu'à son prénom, intéresse beaucoup de gens. Le pays veut voir le visage des membres de sa famille au moment où l'on met enfin cette jeune fille perdue en terre. Dans un appartement spacieux et raffiné de Ripon, près des grandes fenêtres qui surplombent les jardins de la cathédrale, Kitty Tate ouvre un nouveau carton. Elle s'arrête pour écouter les cloches qui retentissent. Dans une heure et demie, la mère de Kirsty Ross enterrera enfin sa fille. Dans une heure et demie, elle pourra enfin, après 22 ans, respirer de nouveau. Elle pense à son procès, au risque terrifiant d'aller en prison. Puis, elle imagine son neveu, qui attend aussi le jugement depuis la prison de Brixton, complètement seul, persuadé de son innocence, convaincu que d'autres que lui sont responsables de tout ce qu'il a fait, incapable d'amour ou d'empathie, corrompu jusqu'au plus profond de son âme. Et elle expire profondément. À Putney, Liliana Mazur boit un café avec son amie Dasha, une autre nounou ukrainienne, un bébé de 10 mois sur les genoux. Elle raconte à sa nouvelle amie qu'aujourd'hui, Kirsty Ross va être enterrée, 22 ans après sa mort. Elle lui dit qu'elle était invitée, mais qu'elle ne pouvait pas supporter le regard des gens qui la haïraient pour avoir été mariée à l'homme qui l'a tuée. Elle lui dit que, parfois, elle se déteste d'avoir épousé un homme capable de faire cela à une femme. Puis, elle tourne la tête pour que Dasha ne voie pas ses larmes. Le bébé la regarde et met sa petite main sur sa joue. Lily l'embrasse doucement. Et ici, dans la vieille Vauxhall garée devant la maison de Pam Ross, Frank et Alice échangent un sourire. « Ça va ?» lui demande Frank. « Oui, et toi ?» Frank hoche la tête.
« Je suis content que tu sois ici avec moi. Vraiment.
Moi aussi.
J'ai beaucoup parlé de toi avec mon psy.
Ah oui ? Et qu'est-ce que vous avez dit ?
Qu'il faut que je me laisse du temps. Que je suis pas encore assez solide pour faire partie de la vie de quelqu'un d'autre. »
Il s'arrête et Alice retient son souffle.
« Mais ce n'est pas ce qui me dérange. J'ai déjà fait partie de votre vie et je sais que c'est extrêmement bénéfique pour moi. Par contre, je me demande si ce serait une bonne chose que vous fassiez partie de la mienne. »
« Tu veux que je fasse partie de ta vie ? » demande-t-elle trop vite en avalant ses mots.
« Oui, bien sûr. »
Il lève les yeux vers la maison de sa mère.
« Mais je ne suis plus tout seul, tu sais. »
Elle se penche pour regarder à son tour. C'est une bâtisse banale, bien entretenue. Une Peugeot verte égarée dans l'allée. Des rideaux à motifs habillent les fenêtres et des hortensias violets ornent la façade. « La famille, ça me fait pas peur.
Même une famille très, très compliquée.
Je crois que ça ira. » Il sourit.
« Je n'en doute pas une seconde.
Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu m'as vue ?» lui demande-t-elle un peu brutalement pour retarder le moment de la rencontre et entendre quelque chose de léger, d'optimiste. « Sur la plage, sous la pluie, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, honnêtement ?»
Il sourit et prend sa main. « Je me suis dit que tu étais trempée et un peu terrifiante. »
Elle lui donne un petit coup sur le bras, mais elle comprend pourquoi elle dit cela. Elle a joué le rôle de la femme terrifiante pendant tant d'années parce qu'elle était elle-même terrifiée. Terrifiée d'être seule, d'être rejetée. Terrifiée d'avoir gâché toutes ses chances au bonheur. Il passe son bras autour d'elle et elle pose sa tête sur son épaule.
« Et surtout que tu étais très belle. » Merci. Pour être honnête, moi aussi je t'ai trouvé beau. Et très trempé.
Il rit et embrasse ses cheveux.
Je suis tellement heureux que tu m'aies trouvé. Que ce soit toi.
Moi aussi.
On y va?
Oui, je suis prête.